Marie entend distinctement et reconnaît les voix d'Anton et d'Anya. Parfois, celles-ci s'entrelacent. D'autres fois, elles lui parviennent d'une à une. Leurs présences lui sont de plus en plus proches, comme elle les aime d'être ici, auprès d'elle. Ces moments si graves les ont étroitement reliés. Marie tente de leur sourire. Son visage lui échappe. Il est loin, inatteignable. On dirait qu'il lui appartient de moins en moins. Elle a du mal à commander ses muscles, à tirer de sa face, défaite, l'expression souhaitée. Elle s'efforce de nuancer son souffle pour exprimer sa tendresse, sa gratitude. Elle y parvient à peine. Les minutes s'allongent, les secondes s'étirent. Depuis l'arrivée du vieux couple, depuis la disparition, puis le retour de la femme, toute vie s'est déroulée. Quelle qu'en soit l'issue, à présent, tout est en place, tout est bien, puisque Steph va bientôt arriver. Ils le lui ont dit. Il sera ici sous peu. Il sait qu'elle courait vers lui, qu'elle l'aime, qu'elle l'aimait, que rien d'autre ne compte. Elle n'a plus qu'à attendre son arrivée, qu'à imaginer déjà son visage penché au-dessus du sien. Alors elle en est persuadée. Ses traits lui obéiront, le sourire submergera sa face. Plus tard, l'âge ayant raboté leurs aspérités, quand les années qui ne seront pas parvenues à les séparer les auront ajustées l'un à l'autre, ils franchiront ensemble le dernier parcours. « Elle a souri, » dit Anton, elle nous entend. Anya se penche, cherche des mots neufs, s'embrouille, s'affole. « Chante, » lui souffle Anton, « tu as une belle voix. » Une chanson de Brel lui vient subitement à l'esprit, elle la fredonne. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Persuadés que Steph ne viendra plus, Anton et Anya sont décidés à maintenir l'illusion jusqu'au bout. « Elle n'en a plus pour longtemps, » chuchote Anton après avoir repris son pouls. « Chante, chante toujours. » Anya chante, mêlant Gainsbourg à Cabrel, traîné à Brassens, ferré à Souchon, Brel à Chédid. Des bribes, des mots épars, des phrases, des airs dont elle se souvient. Un brassage de joie et de peine, de fronde et de réconfort. Anton sait que la jeune femme n'en a plus pour longtemps. Dès le début, la gravité de la blessure ne lui a pas échappé. À travers sa longue vie de médecin, il a toujours voulu accompagner ses grands malades jusqu'à l'ultime départ. La jeune femme aura rendu son dernier soupir bien avant l'arrivée de l'ambulance. Il se félicitait d'avoir éloigné le franc-tireur qui avait perturbé Anya et qui aurait fini par inquiéter Marie. À présent, ils s'efforcent, ensemble, de donner réalité, consistance à l'image de Steph. Il l'évoque, descendant la pente, courant vers eux, s'approchant de plus en plus vite les coudes au corps. Son retard s'explique. Il a dû subir des contrôles pour pénétrer dans ce quartier qui n'est pas le sien. Il sera bientôt au bout de la rue. Nous le verrons de très loin. Son chandail bleu ne passera pas inaperçu. Nous te tiendrons au courant. Il mentait bien. Il finissait par croire à leurs mensonges. Ma petite fille, je l'ai vue de près. Il est vraiment beau, ton amour, lui souffla-t-elle. Elle l'a tutoyé. Elle aurait pu être sa grand-mère. Ma petite fille chérie, tout est bien. Bientôt, on fera une fête tous les quatre, ajouta Anton. Du fond de la souffrance, Marie parvint à sourire une fois de plus. Au bout d'une rapide et longue marche, arrivée à l'embranchement qui donnait sur les bâtiments hospitaliers, Gorgio n'y trouva que ruine. En grande partie détruite par une voiture piégée, la bâtisse gisait dans un éboulis de gravats, un éparpillement d'appareils électroniques, de portes fracturées, d'armoires et de tables démolies, de lits disloqués, de papiers dispersés. Vidé des malades qu'on avait pu sauver, débarrassé de ses morts, l'hôpital était réduit à un vaste champ de dévastation. Quelques murs, encore debout, exhibaient de larges brèches qui annonçaient leur prochain écoulement. On aurait dit un château de cartes aux trois quarts anéanti qui n'attendait qu'une chiquenaude pour culbuter dans le néant. Gorgio avança parmi les décombres, au comble de la fureur, il envoya des coups de pied au bas des murs, la poussière l'enveloppa d'un nuage grisâtre. Qui avait perpétré cette insanité? Était-ce quelqu'un de son camp? Comment aurait-il agi si cet ordre lui avait été donné? Quelle cause cela servait-il? Il continuait à ruer dans les pierres, à trépigner de rage. Saisissant son fusil à deux mains, il tournoya dans tous les sens comme s'il cherchait à surprendre un des criminels qui avait démoli l'établissement. Cet hôpital lui était familier. Il y a une dizaine d'années, sa mère y avait été soignée puis guérie. Ce souvenir le bouleversa. Il n'avait que 12 ans à l'époque. Pour fêter la sortie de sa mère, il avait arraché une rose sur la pelouse interdite du jardin, dans l'intention de la lui offrir. Une épine lui avait entaillé le pouce qui s'était mis à saigner et qu'il avait aussitôt entortillé dans un mouchoir. « Tiens, cette rose est pour toi, maman, » dit-il en arrivant dans sa chambre. Elle rayonnait de joie, d'émotion et le prit dans ses bras tout contre elle. « Merci, mon bel enfant, merci. » Il éprouva une sensation tiède, douce, moelleuse, qu'il aurait voulu prolonger. Découvrant la main qu'il cachait derrière son dos et le mouchoir imbibé de sang, son père devina le larcin. D'un geste, il arracha gorgure de sa mère. « Voleur, sale petit voleur » hurla-t-il. « Où l'as-tu prise, cette rose ?» Sa mère s'interposa, serra la main bandée entre les siennes, la couvrit de baisers. « Il l'a fait pour moi, rien que pour moi. » Le père secouait la tête. Il avait une barbe pointue, bien taillée, qui se dressait à chaque mouvement de menton. Tu le pourris, tu l'élèves contre tous les principes. La barbe noire dramatisait encore plus l'implacable visage. Les traits de sa mère s'effondraient, ses joues devenaient d'une pâleur mortelle. Une heure plus tard, accompagnée et soutenue par une cohorte d'infirmières qui lui étaient attachées, elle pénétra dans la Mercedes, suivie de Gorgio. Excédé par la scène et les signes de sympathie qui se prolongeaient, le père trépignait devant son volant. Cette sentimentalité idiote ne fait que nous retarder, dit-il de plus en plus irrité. Au début du conflit qui allait s'emparer du pays, Gorgio et son père avaient eu une fois de plus un grave différend. Ce dernier avait renoncé à sa barbe, mais accusé 10 années de plus. Les deux hommes s'étaient injuriés, ils en étaient venus aux mains. « Je m'en vais, » criait Gorgio, « je ne reviendrai jamais plus, je vais rejoindre l'autre camp, celui de tes ennemis. » Sa mère s'interposa, elle s'accrochait au bras de son fils, à son tricot, au pan de sa chemise. « Ne fais pas ça, je t'en supplie, ton père t'aime, je te le jure, il ne sait pas te le dire. » Gorgio l'avait repoussée brutalement, elle aurait glissé sur le carrelage sans le secours de son époux. « Je te maudis !» hurla celui-ci, « tu vas jusqu'à frapper ta mère, ne remets plus jamais les pieds ici, jamais plus !» Gorgio était parti en courant. Le saccage, l'anéantissement de l'hôtel évoquaient de nouveau l'image de sa mère, tremblante, livide, s'efforçant d'accorder l'irréconciliable. La destruction avait sans doute eu lieu il y a plusieurs jours, vivant isolé et tranquille dans son no man's land où il reprenait goût à l'existence, Gorgio n'en avait rien su. Une poussière opaque recouvrait les décombres d'un linceul grisâtre, celle-ci n'avait ni forme ni odeur. On aurait dit un décor cauchemardesque mais abstrait. Gorgio s'en détourna, ses ruines ne le concernaient plus. Il fouilla dans la poche de son pantalon kaki pour s'assurer que son carnet de citations était en place. Il reconnut au toucher la couverture en moleskine, cela le rassura, il ne pouvait plus se passer de ses voix. Pressé d'en finir avec ce monde en loques, Gorgio ne rêvait que de retrouver son antre, ses armoires débordantes de victuailles, son frigo à moitié plein, son îlot au 9e étage de l'immeuble abandonné. Là où je fais ce que je veux, là où je suis un aigle, un roi, un gouverneur et même un penseur, se dit-il étonné. Avant de retrouver le domicile qu'il s'était choisi, il lui fallait trouver une ambulance et ramener celle-ci au plus tôt jusqu'à l'endroit où gisait la jeune femme. Il en ressentait l'urgence et l'obligation. Cette face exsangue qui l'obsédait se posait comme un masque sur le visage de sa mère. Il ferma les yeux pour chasser ces visages qui se juxtaposaient avec leur même pâleur et leurs gémissements qui se faisaient écho. Il décida de rejoindre les quais en bordure du fleuve. Il bifurqua vers la grande rue qui se poursuivait jusqu'au pont et se hâta dans cette direction, persuadé que là-bas, il pourrait se renseigner, trouver d'autres services hospitaliers, ramener enfin cette sacrée ambulance. « Tu es fou !» vociféra le chauffeur, tandis que Steph, après s'être péniblement frayé un chemin dans la foule, enfonçait la portière d'un brusque coup d'épaule. L'autocar, qui avait quitté le pont depuis plus d'un quart d'heure, s'était engagé sur une autoroute et avait pris de la vitesse. Steph bondit hors de l'ouverture béante, tandis que le passager poussait des cris de terreur. Pour rien au monde, Braco n'aurait freiné ou ne se serait arrêté. Qui était ce démon ? Sans doute celui qui avait hurlé « Où est le prochain arrêt ?» Il lui avait pourtant fait passer le message, mais ce fou était sans doute de ceux qui n'en font qu'à leur tête, au risque de provoquer un accident. Pourquoi était-il monté dans le car, puisqu'il comptait en descendre aussi rapidement? Cette drôle de guerre déglinguait tout le monde, désaxait les jeunes comme les vieux. Ce passager délirant devait se prendre pour un héros, un caïd. Dans la propre famille du chauffeur, fils et neveux avaient choisi des camps différents. L'atmosphère devenait irrespirable. Les filles s'en mêlaient aussi, se transformant en virago, en passionnariat. Sauf quelques-unes, des mères surtout. En dépit de leurs appartenances, elles s'étaient liguées pour organiser des rassemblements et réclamer la fin des massacres. Bravant leur groupe, leur religion, leurs âges, elles marchaient côte à côte en se tenant par le bras. Il en résulta peu de choses. Deux d'entre ces femmes étaient mortes, victimes de farouches guerriers qui prétendaient que leur place était au foyer et non pas dans la politique. Le chauffeur en avait assez, assez de tous et de chacun, assez de ce pays et de l'humanité entière, mais il fallait vivre et faire vivre les siens. Son autocar usagé lui permettait de gagner quelques pécules en ces temps de pénurie, bien que la plupart des voyageurs prenaient place sans verser la moindre somme. Braco utilisa d'abord les services d'un vieil oncle qui se faufilait parmi les passagers pour surprendre les fraudeurs, mais ce dernier se découragea très vite, s'étant débrouillé pour atteindre sans encombre un âge avancé. Il ne comptait pas, même pour le bénéfice de son bien-aimé neveu, périr par suffocation. Braco n'y pouvait rien et devait se contenter de sommes modiques. Il se sentait usé du dehors comme du dedans. Sa chevelure clairsemée, sa jaquette élimée, ses chaussures sept fois ressemelées, son visage ridé avant le temps, tout contribuait à le démoraliser. Il gratta son épaisse et martiale moustache, tâta son ventre, dont les aimables rotondités avaient fondu, se désola d'avoir perdu le goût de boire, de manger et de faire l'amour en cachette de son épouse. Ce pays égaré, son pays, mon pauvre pays, disait-il en soupirant. Il aimait malgré tout sa patrie, viscéralement. Pourtant, elle lui en faisait voir. « Je te hais, mais je t'aime », marmonnait-il, persuadé qu'il ne s'expatrierait jamais. Pas comme ces richards, ces fuyards qu'il méprisait. Le cinglé qui venait de sauter hors du car avait une tête d'étranger. Ces gens-là ne faisaient que compliquer la situation. Braco se demandait souvent s'il n'était pas responsable du malheur survenu. « Refermez bien la portière », cria-t-il aux passagers les plus proches. Ce fut vite fait. « Cet enfant de pute a failli nous faire avoir un accident grave. Ce qui lui arrivera, je m'en fous. Lui, au moins, mérite son sort. » L'approbation fut générale. À l'arrière de la voiture, une voix s'éleva. « Pas besoin de s'en faire pour lui. Je le vois à travers la vitre. Il s'en est tiré. Il est debout sur ses jambes comme un démon. Et bien que le diable l'emporte, comme grommela le chauffeur, en pressant sur la pédale. »